France Culture.
Alors, qu'est-ce que nous devons ? Attends, et si c'est ça ? Parfois, il faut juste faire ça ? Non ?
Thierry ? Ouh !
France Culture, le book club.
Thierry ?
Ah bah voilà !
Voilà, je me suis dit, je descends.
Ah voilà, super, parce qu'il nous manquait un petit truc.
D'accord. Allez. Premier étage.
Dans la bibliothèque de Thierry Tionyorg.
C'est ici. Entrez. Et voilà. J'étais en train de relire, rechercher les passages. Quel exercice difficile.
C'est plaisant.
C'est très plaisant. Ah, c'est très plaisant. Non, okay. c'est pas triste, pas okay, du tout. Okay. Non, c'est très plaisant. C'est un peu vertigineux.
On peut se dire rendez-vous dans 15 ans pour refaire.
Exactement.
Marie Richeux.
Un petit air shakespearien, notre arrivée chez Thierry Tionyorg, tous les trois nous présentant au compte-gouttes en bas de sa fenêtre et l'appelant comme des Roméo de la radio avec micro et nagra en bandoulière. La référence théâtrale s'arrête là, tant le travail du chorégraphe est assez éloigné de la grande tirade et des grands mots, quoiqu'il travaille actuellement sur un opéra de Gaetano Donizetti. Non, souvent pour parler de son art, on évoque davantage le silence, la délicatesse, la force de la vulnérabilité. Ces dernières années, il a chorégraphié aussi bien des corps d'enfants, d'adolescents que des corps de personnes très âgées ou très malades, des personnes empêchées par la maladie, le handicap, l'obésité ou l'autisme. À chaque fois, il s'agit pour lui de repérer le rythme, la respiration propre à chacune, à chacun, à chaque texte, à chaque espace. Avant d'être danseur et chorégraphe et de croiser le chemin de grands metteurs en scène comme Patrice Chéreau, Robert Carsen ou Claude Régis, il a été instituteur et avant encore, il a été enfant. Il a vu son père d'origine vietnamienne installer son bibliobus rempli de livres sur les places alsaciennes. Il en a gardé un goût fervent pour la littérature et un attachement puissant aux objets qui la contiennent. Tous les textes qu'il a choisi d'évoquer aujourd'hui, il en a connu même brièvement les autrices et les auteurs. Manière de souligner combien tout est histoire de rencontre pour Thierry Tionyorg. On le suit dans sa bibliothèque.
Thé, café, un grand verre d'eau.
Oui, oui, oui. Pour parler pendant le...
Oui, oui, vous pouvez suivre, c'est pour entendre la bougeoire. C'est le couloir qui est ma bibliothèque, la vidéothèque, la discothèque, le salon avec les livres d'art. Et puis...
Ici, tels qu'ils sont installés, ils sont installés comme ça ou c'est un peu pour nous?
Non, ça change tout le temps.
Mais comme une petite exposition.
Oui, comme okay. Une petite exposition, avec des objets. Donc c'est sur cette table près de la fenêtre, il y a des livres d'art. Quelquefois le livre que je viens d'acheter, comme là j'ai acheté le dernier Quignard. Des objets, je change suivant. Je peux mettre un bouquet de fleurs, je peux mettre une bougie, je peux changer. Voilà, c'est une table d'exposition.
Ouais.
Un peu comme dans Le Voyage de la Vénus Noire avec Alice, c'est un peu un bureau d'exposition.
Ouais. Et le petit cheval ?
J'ai trouvé dans une brocante, c'est un cheval chinois qui s'ouvre. Si on peut enlever la selle.
Je peux essayer, ouais.
Oui, tout à fait. On peut enlever la selle. Je pense qu'on pouvait mettre soit
de l'encens, non ?
Voilà, des petites cônes d'encens.
Ok.
Pour des cérémonies.
Et vous avez déjà regardé le roman de Kina ou pas encore ?
Non, je l'ai acheté hier. J'ai la chance d'avoir une jolie librairie qui s'appelle l'Atelier, juste là à côté. Donc voilà, donc je suis allé acheter. J'ai entendu Quignard parler, et puis un livre sur la question de la mort aussi. J'ai accompagné mon papa, j'ai des amis très proches aussi qui sont partis. Donc voilà, j'arrive aussi à un moment de ma vie, de mon âge, où on accompagne. Ça m'a permis de me mettre en jachère aussi, et de me rendre compte aussi par rapport à moi qui travaille beaucoup avec la vulnérabilité des corps, tout à coup de me retrouver dans cette intimité-là, dans cette chose plus intime aussi par rapport à moi, c'était nouveau, quoi. C'était nouveau. J'avais pas, avec ces expériences-là, j'avais pas la danse qui me protégeait. Et c'était très étrange, parce que la danse a toujours été pour moi le moment de pouvoir partager, de pouvoir danser avec un corps empêché, un enfant autiste, un prisonnier, une personne âgée. Et là, tout à coup, avec mon propre père ou avec mes amis proches, tout à coup, je me suis dit, mais tiens, mais qu'est-ce que j'ai à faire? Comment je dois faire?
qu'est-ce que j'ai comme ressources aussi,
qu'est-ce que j'ai comme ressources, ouais. Voilà, donc les livres, de lire des textes, d'écouter des musiques, de préparer un repas. Mais je me suis rendu compte que ça me fragilisait moi-même parce que tout à coup, je ne trouvais pas dans mon propre corps le mouvement qui allait transcender, transposer, transformer cette, ce passage.
Mais c'était l'occasion de trouver d'autres outils, du coup. Par exemple, les textes, enfin, en même temps, on va en parler, mais votre travail a quand même été très toujours proche de la littérature. Mais là, le fait de ne pas pouvoir comme, danser directement avec ces personnes toutes proches de la mort qui vous étaient si proches, les livres, c'était une réponse ou une ressource ?
Oui, c'était une réponse. En effet, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je plonge vraiment dans les livres, dans les auteurs. J'ai eu la chance de travailler avec beaucoup, de connaître beaucoup d'écrivains qui sont là encore aujourd'hui. Et ça m'a permis de chercher à travers leur écriture une écriture du corps. Et là, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas celle immédiate, il n'y avait pas celle spontanée, improvisée, avec laquelle je pouvais tout à coup aborder la vulnérabilité, l'accompagnement. Il y avait quelque chose, oui, d'affectif, d'émotionnel qui arrivait et qui prenait toute la place. Quoi.
Bon, ça apprend aussi, hein ?
Ah ouais, ça apprend. Ça apprend. Justement, en relisant un peu tous les textes que j'ai choisis, et je me suis rendu compte là, qu'il y avait quelque chose comme ça, de la beauté comme un instant, ou l'instant comme la beauté. Qu'est-ce que la beauté ? Et je me suis rendu compte que dans mon travail, j'ai cherché tout le temps, même dans un corps fragile, dans un corps qui déborde, dans un corps handicapé, ou dans un corps démultiplié, la beauté de chaque mouvement, même le plus infime.
Mais c'est quoi pour, quand vous dites la beauté, c'est quoi pour vous ?
Ben justement, c'est ce qu'en lisant.
Peut-être qu'on va découvrir.
Voilà, en lisant, je me suis dit tiens, mais c'est quoi ? Comment ça se fait que ça revient ?
C'est
quoi ce mot-là ? C'est quoi ce mot-là ?
Est-ce que c'est un agent double peut-être ?
Voilà, c'est un agent double. Est-ce que c'est comme dans le texte de Robin Costes ? Voilà, est-ce que c'est un agent double ? Est-ce que c'est un synonyme de vérité ? C'est un synonyme de présent.
De présent, Virginia Woolf, Clarice Lispector, elle pense beaucoup la jonction entre l'instantané et la beauté.
Et la beauté, voilà.
Woolf, c'est très présent.
Complètement.
Donc un peu de café.
Un peu de café.
Et beaucoup d'eau.
L'eau fraîche est
arrivée. Ah ben on l'a déjà, ouais.
Vous avez des verres.
Est-ce qu'on a, on aide à apporter les petites tasses peut-être ?
J'ai mis des petites tasses.
Et j'ai remarqué en arrivant tout de suite qu'il y avait des albums jeunesse dès l'entrée.
Dès l'entrée.
Ouais.
Dès l'entrée sur des petites chaises en bois.
Ouais.
Ça permet aux enfants des amis, à mes neveux, mes nièces, de venir, de s'asseoir dans le couloir. J'aime beaucoup les livres pour enfants.
Depuis toujours.
Et
vous en avez lu lorsque vous étiez enfant ?
Oui. Ouais. Oui, j'en ai lu. Alors, parce que d'abord, mon papa travaillait dans un bibliobus. Ouais. Donc, toute mon enfance, comme ça, il y avait devant la maison le bibliobus qui était garé. Et donc, avec mes frères et sœurs, on allait dans le bibliobus chercher des livres, jouer aux bibliothécaires.
Rappelez à nos très jeunes auditeurs, dont on espère qu'elles sont nombreuses et nombreux avec nous, des gens qui ont, je ne sais pas, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, qui sait, même 30, ce que c'est qu'un bibliobus.
Mais oui, moi j'ai donc appris récemment qu'il n'y en avait presque plus. Donc c'était un camion plein de livres qui allait dans les campagnes, dans les collèges, dans les lycées, où les enfants, les professeurs rentraient par classe, par petits groupes, et on pouvait choisir des albums, des bandes dessinées, des livres d'art. Et il y avait des livres sur le sport. Et mon papa était très enthousiaste à porter cette mission dans les collèges, dans les villages, et d'inciter comme ça tout le monde à venir prendre un livre. Et même les plus récalcitrants, il allait dans la cour en cherchant, en disant « J'ai des livres sur le football, venez voir, j'ai des livres sur ton pays, viens voir. » Et ça a été vraiment un moment très, très, très heureux, très joyeux.
Donc, il y avait des livres pour vous, des livres pour
Donc,
enfants
il y avait
pour
des
vous.
Livres ouais. d'enfants pour moi. Il y avait, on pouvait en prendre et les amener dans nos chambres. C'était assez, assez émouvant parce que j'ai un souvenir très fort aussi, c'est que un jour, j'avais été invité à un anniversaire et dans la maison de ses camarades, j'avais 10 ans, il y avait plein de livres. Donc, plein de livres, des rangées de livres partout. Et je me suis dit, mais... Et on me disait, mais c'est nos livres, c'est à nous. Et avec mon argent de poche, je suis allé m'acheter un livre.
Est-ce que la spécificité des bibliobus, c'est qu'il fallait le ramener?
Il faut ramener le livre. Et quand je me suis rendu compte que je pouvais garder le livre à moi, que je pouvais écrire mon prénom, que je pouvais le laisser traîner, le mettre... Voilà, ça a été un moment, ça a été une discussion, je me souviens, avec mes parents, en disant, mais t'es sûr, avec ton argent de poche, alors que t'as juste à descendre, prendre les livres dans le bibliobus. Et non, j'ai eu besoin, à ce moment-là, vers 12 ans, je n'ai plus voulu monter dans le bibliobus, prendre les livres, mais aller dans une librairie et acheter mes livres.
Est-ce que ça peut nous renseigner sur ce que c'était, ce que c'est toujours le livre pour vous, Thierry Tionyang? C'est-à-dire, si vous vous rendez compte que c'est tellement important pour vous de pouvoir l'avoir à vous, ça veut dire que, confusément ou pas, à ce moment-là, dans votre jeune adolescence, vous avez pigé quelque chose de ce que c'est qu'un livre, non? Ça veut dire quelque chose pour vous, en tout cas.
Complètement. J'ai senti que tout à coup, un livre pouvait faire partie de ma vie, complètement. Pouvait être là, dans le voyage, dans la nuit, dans l'échange avec un autre livre, avec quelqu'un d'autre, et qu'il n'y avait pas à le rendre dans sa couverture plastifiée, avec un petit carton, et la date d'entrée, la date de sortie. Et que je pouvais à tout moment le retrouver, ce livre, le ramener sur la table, le remettre sous l'oreiller. Après, je n'ai plus jamais été dans les bibliothèques, tout en encourageant tout le monde à y aller, en disant quand même, allez-y, parce que c'est vraiment le moment. Mais si vous pouvez en acheter, achetez-en. Je crois que j'achète un livre, au moins un ou deux livres par semaine, en faisant mes courses.
Mais vous en donnez, parce que là, il n'y a pas un livre par semaine qui rentre dans cette maison, parce que la bibliothèque est en ordre, quoi. Vous vous en sortez bien.
Voilà, mais j'en donne et j'en offre beaucoup. Okay. Ouais, ouais. Okay. J'ai des échanges comme ça avec des amis, comme Anne Alvaro, par exemple, ou Marie Desplechin. Et voilà, on s'échange beaucoup, beaucoup de livres. Mmh. Voilà.
Alors, c'est parti pour un premier tour. On fait une sorte de promenade rapide, oui. Thierry Tionyang, dans votre bibliothèque. Et puis ensuite, on fera, comme avec tous nos invités, la lecture des 5 textes que vous avez si difficilement choisis, ou si amoureusement choisis. Voilà. Donc, on est à l'entrée.
Voilà, on est à l'entrée. Donc, en racontant l'histoire de la bibliothèque, le bibliobus, voilà, j'ai découvert aussi qu'on pouvait mettre les livres comme ça, par famille, par pays, par ordre alphabétique. Donc là, ma bibliothèque est un peu rangée. Il y a là tous les anglo-saxons.
À l'entrée,
okay. Par ordre alphabétique. On retrouve évidemment des Conrad, des Carver, des Joyce, mais aussi des Robin Koslevis, différents auteurs.
Beaucoup de Philip Roth, beaucoup de Raymond Carver, pas mal de Virginia Woolf aussi.
Oui.
Petit point design, elle est très simple, mais elle est très belle, cette bibliothèque. Elle est...
Ah ouais, alors là, c'est...
On sait pas.
Je les ai faites.
Ah voilà, vous les avez faites vous-même?
Oui, parce que je trouvais que toutes les bibliothèques qu'on pouvait acheter, elles sont toujours trop grandes.
Ouais.
Donc là, elles ont toutes la même taille, elles font 2 mètres et 20 cm de profondeur.
Et sont en bois. Et c'est beau, hein. Ça fait plaisir.
Après, il y a donc l'Italie, l'Allemagne.
Là, on a tourné, pour nos auditeurs. Voilà.
L'Italie, l'Allemagne, il y a le Vietnam, le Japon, il y a les pays scandinaves, l'Afrique.
On se déplace.
Ensuite, la poésie, par contre, j'ai tout mélangé. C'est-à-dire tous les pays.
Ah, voilà.
Tous les pays.
Mais il y a quand même il y a un grand coin poésie même.
Et puis après, il y a des livres sur la peinture, des livres sur la danse, évidemment, des pièces de théâtre.
Est-ce que vous vous êtes singulièrement intéressé à la littérature en lien avec le Vietnam ou pas plus que tout le reste autour?
Non, il y a un moment, la première année en 93, quand j'ai eu une bourse Villa Médicis sur les murs, où je suis allé au Vietnam, là j'ai vraiment plongé dans la littérature vietnamienne. En découvrant des auteurs, surtout des autrices vietnamiennes exilées, soit au Canada, soit aux États-Unis. Soit en France. Ça fait très longtemps, j'en ai pas. J'ai lu récemment Ocean Vuong, que j'aurais pu choisir aussi dans la liste, mais c'est un peu un des derniers que j'ai découvert sur la nouvelle littérature vietnamienne. Après, c'est la littérature française. C'est assez rigolo parce que je regardais que ça commence par Laure Adler et ça finit par Marguerite Yourcenar. Mais entre-temps, il y a aussi tous les gens aussi qui me sont proches, comme Christine Angot, mm-hmm. comme Annie Ernaux, mm-hmm. comme Marie Desplechin, mais aussi Pierre Guyotat, Mathieu Riboulet, des découvertes aussi, Antoine Wauters, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je me suis dit, tiens, que j'avais envie d'imaginer quelque chose de, avec la danse, avec ce monsieur.
Et on serait ravis, je pense.
Je sais pas. Mais voilà, je trouvais que c'était assez...
Si ça n'apparaît pas dans ce portrait de bibliothèque, ça, le message pourrait être passé. Mais bon, exactement. Vous n'avez pas besoin de nous, de toute façon.
Non, non.
Il y a aussi dans cette bibliothèque toute une exposition de cartes postales noires et blanches. Est-ce que, au même titre que votre table d'exposition près de la fenêtre, ça change ou pas?
Elle reste en noir et blanc tout le temps, mais sinon elle change. Donc là aussi, il y a des personnages un peu... Il y a,
bourgeois.
Exactement. Il y a Foucault, il y a Kerouac. Ensuite, voilà, il y a Marguerite Duras à Trouville, là-bas au fond.
Ah oui, avec les grandes fenêtres.
Avec les grandes fenêtres à Trouville. Et puis, donc, la bibliothèque, et ensuite...
Qui va rapidement devenir une vidéothèque,
voilà,
en fait.
Voilà, pareil. Par pays, des films du monde entier. Et plus loin, il y a la discothèque, des CD, des disques d'opéra, de musique, de chansons françaises, pop, tout. C'est très varié et en même temps, voilà, c'est ma maison, c'est mes amis, de Charlotte Delbault à Olivia Rosenthal. Voilà, ça va...
Vous la consultez ou pas, cette bibliothèque? Vous avez un usage de cette bibliothèque?
Oui, vraiment.
Vivante.
Oui, quand je suis sur un projet, quand je travaille, quand je vois un film, une exposition, il y a quelque chose qui me travaille, qui me relie, qui me questionne, que ce soit Georges Didier Huberman, par exemple, que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est très, très présent, mais aussi des jeunes auteurs, autrices que je découvre, des rééditions,
Vous n'avez pas mentionné des textes théoriques, ou je me trompe? Parce que vous parlez de Georges Didier Huberman.
Oui, donc s'ils sont mélangés, la philosophie, la psychologie, il y a Deligny, quelque part là-bas aussi, que j'aime beaucoup. Il y a des essais sur la danse, il y a des essais de Laurence Loup, que j'aimais beaucoup, beaucoup. Il y a des essais sur le théâtre, évidemment, et des auteurs de théâtre qui font partie de mon histoire, des biographies de cinéastes, d'auteurs.
Il y a une petite... Elle fait quoi, elle? On peut la tourner ou pas?
Oui, c'est une boîte à
bouquins. Et elle fait quoi? Elle fait ça. C'est parfait, je trouve.
Ça, c'est souvent aussi ces objets qui sont là, posés sur l'étagère. C'est aussi des cadeaux, la petite maison en bois, le petit bateau. C'est des cadeaux des uns et des autres. De mes amis, des enfants, des adultes qui travaillent avec moi.
Je profite de ça parce que souvent, quand même, il y a en effet un mélange entre des livres et des objets. Des livres et des cartes postales, des livres et des petites... Ouais. Et je me dis, tiens, c'est marrant. Pourquoi ça cohabite si bien les livres avec ces objets-là? Je suis sûre que c'est pas qu'une histoire d'espace.
Non, c'est vrai. C'est
une histoire de je sais pas quoi. Mais... Ouais. Parce que par exemple, je sais pas, il y a un petit lapin là, ou cet objet, ou cette boîte à musique, ça pourrait être partout dans la maison.
Oui, c'est vrai.
Et ça vient près des livres.
C'est vrai,
ouais. Et chez moi, c'est pareil. Je veux dire, il y a plein de bibliothèques qu'on a fait. Vous parliez d'Annie Ernaux. La bibliothèque d'Annie Ernaux, il y a plein d'en... Ou de Dominique Blanc, par exemple.
Ouais.
Photographies partout, qui sont très amies avec les livres. C'est étonnant. On va voir ce qu'on fait de ça. Je sais pas. Si un jour, on sait pourquoi, je sais pas. Et qui n'ont pas ces objets-là, pour moi, ça n'a pas la même... c'est comme s'ils n'avaient pas la même vibration, les objets qui sont près de vos livres, Thierry Tuenyang, que ceux-là, par exemple.
Complètement.
C'est bizarre.
Oui, parce que je pense que les objets posés ainsi sur une cheminée ou sur une table font un peu, comme on disait tout à l'heure, un peu exposition, un peu art de vivre, créer comme ça une atmosphère. Alors que la cohabitation d'un objet, d'un jouet, d'un vieux jouet, d'une carte postale près d'un livre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de la correspondance, que ça continue à parler, à communiquer. C'est introduire tout à coup dans un livre, près d'un livre, sur le dos d'un livre, une peluche, une plume, un caillou.
Ouais.
Et ça fait de l'effet. Et c'est une, comme une installation un peu poétique qui ouvre l'imaginaire, qui ouvre l'espace, et que je renouvelle souvent. Des fois, je me prends un objet, je le mets ailleurs. Et voilà, où j'associe, je viens de terminer un livre, je vais le ranger dans la bibliothèque. Et tout à coup, je me dis, tiens, mais voilà, je cherche un objet. Et, mais c'est souvent aussi des objets qui sont reliés, je crois, au quotidien de l'enfance. Quelque chose du souvenir, de la trace, un caillou.
Oui, voilà, c'est ça, l'intuition que j'ai. Moi, c'est comme si on pouvait dire l'idée de « Ah, cet objet raconte ceci ». Donc, en fait, c'est presque la, c'est des récits qui jouxtent des récits.
C'est... Exactement. C'est comme si l'objet devenait, lui, livre.
Un livre.
Where did you go? Did you know when you went that the world would go crazy in 2012 when you went away? Did you know when you went that the world would go crazy in 2012 when you went away? Away, far in the land is away. Away to get away from mankind is away. Away, deep in the ground is away. Away, up in the sky. Where did you go? Did you know when you went that the world would go crazy in 2012 when you went away? Did you know when you went that the world would go crazy in 2012 when you buvons bien, buvons mes amis train, qu'on buvons, levons nos verres, buvons bien. Buvons mes amis train, qu'on buvons, vidons nos verres. The world was already crazy. The world was already blind. The world was already wanting for more old, for more gold, for more minds. The world was already empty. The world was already high. Was already saying, oh, what a shame. Where'd you go? Did you know when you went that the world would go crazy in 2012?
France Culture, le Book Club.
Did you know?
Dans la bibliothèque de Thierry Tionyang.
Did you know?
Marie Richeux.
Alors, on passe à cet autre moment où on vous a demandé de choisir, comme à chacun de nos invités, 5 textes. Et vous avez eu envie de faire un choix selon un principe. Peut-être que vous pouvez nous le dévoiler avant qu'on entre dans cette sélection, Thierry Tionyang.
Donc, quand j'ai eu cette invitation, très vite, j'ai pensé à Amos Oz, parce qu'il y avait tout un passage autour de la bibliothèque et comment l'enfant découvre cette histoire de bibliothèque, comment ranger, qu'est-ce que c'était la bibliothèque du père, comment il a commencé à constituer sa propre bibliothèque. Et donc ça me renvoyait forcément à l'histoire que je racontais, comment tout à coup, moi aussi, j'ai eu envie d'avoir ma propre bibliothèque, mon propre bibliobus dans ma chambre. Et donc j'ai choisi un extrait à partir de ça. Ça, c'était sûr. Et après, j'ai un peu cherché, et puis je me suis dit, mais j'ai eu la chance d'avoir pu côtoyer, travailler avec des auteurs. Je pense à Christine Angot, à Alberto Manguel, et je me suis dit, il faut que je trouve des gens, des auteurs qui ont été aussi en relation avec mon travail.
Donc, qui ont croisé votre route. Et c'est des gens que vous avez rencontrés?
Voilà.
Tous rencontrés?
Oui, oui.
Duras compris.
Donc j'étais en vacances avec des amis à Trouville. J'avais 24 ans. Je me suis baladé, je suis allé faire des courses et elle était là avec son chariot en face.
Au supermarché.
Et puis je suis allé la voir et je lui ai dit bonjour. Et là, je me souviens, je lui ai dit, je suis un peu comme vous, vietnamien. Et elle a rigolé. Et
c'est pas mal comme enfant.
Et voilà, parce que j'étais terrorisé, j'étais content de la voir, j'avais commencé déjà à travailler, à lire des choses autour d'elle. Je me suis présenté, on a parlé du Vietnam, on a parlé du Nhoc Mam, et puis elle est partie, et puis j'étais heureux pendant toutes mes vacances.
Mais c'était possible, quoi. En tout cas, elle vous a accueilli.
Complètement. Ouais. Complètement. Elle était très curieuse de savoir d'où je venais, d'où venait mon père, qu'est-ce que je faisais à Trouville. J'étais un jeune danseur à l'époque, je disais que je commence à danser et tout. Elle disait, c'est bien. Voilà, elle était très curieuse, très. Mais elle était très pressée parce qu'il fallait qu'elle fasse sa soupe et qu'il fallait acheter, évidemment, les pommes de terre.
Les poireaux. et est-ce que vous pensez que c'était un peu un mot de passe, le côté Vietnam, le fait que vous ayez prononcé ce mot-là?
Oui, ouais, oui. Bon, enfin, c'était, pour moi, c'était déjà un sésame. Mmh. C'était une façon aussi de lui dire, et je lui ai dit aussi, je disais, mon papa, il n'a pas beaucoup parlé du Vietnam, et moi, j'ai découvert le Vietnam, et en plus, un Vietnam en noir et blanc, grâce à vos livres, et que je lui ai dit, vous êtes la première qui m'a parlé de façon intime du Vietnam avant que mon père ose livrer la parole, plutôt à la fin de sa vie, de parler du Vietnam, et voulant nous protéger, qu'on soit des petits Français bien élevés, et puis le Vietnam était un moment difficile pour lui, voilà, donc il fallait pas en parler.
Il a changé d'avis au bout d'un moment?
Oui, il a changé en vieillissant, nous en grandissant, en me voyant partir, moi aussi au Vietnam, en ayant des projets là-bas. Quelque chose s'était consolé, réconcilié aussi, donc c'était bien.
Est-ce que vous voulez commencer par Duras, du coup, ou vraiment Amos Oz étant la première?
Non, Amos, quand même.
Le titre du livre que vous avez choisi de lire pour nous, Thierry Thionyang, c'est « Une histoire d'amour et de ténèbres ». Donc c'est un très grand livre d'Amos Oz, à dimension autobiographique, qui évoque surtout l'enfance dans le Jérusalem des années 1940-1950. C'est un livre qui est apparu au tout début des années 2000 et que vous allez lire dans une traduction de l'hébreu vers le français de Sylvie Cohen.
Le plus beau jour de ma vie, je devais avoir 6 ans, fut celui où papa me fit un peu de place sur l'une de ses étagères pour y ranger mes livres. Disons qu'il me céda quelques 30 cm, représentant le quart du rayonnage du bas. Je réunis tous mes livres qui, jusque-là, s'empilaient sur un tabouret près de mon lit et les transportais à la bibliothèque paternelle où je les disposais à la verticale comme il se doit, le dos vers l'extérieur et la tranche contre le mur. C'était un rite de passage, une cérémonie initiatique. Celui dont les livres tiennent debout n'est plus un enfant, c'est déjà un homme. J'étais comme mon père, mes livres tenaient droit. J'avais commis une terrible bourde. Papa était parti travailler et j'étais libre de disposer à ma guise du bout d'étagère qui m'avait été attribué, mais j'avais une idée très puérile de comment faire quoi. Je classais donc mes livres d'après leur format, les plus grands étant précisément ceux qui étaient indignes de moi, les histoires en hébreu vocalisées, les poésies, les albums illustrés que l'on me lisait quand j'étais bébé. J'avais agi ainsi pour remplir tout l'espace qui m'était imparti sur l'étagère. Je voulais qu'il soit plein à ras-bord, qu'il déborde exactement comme chez mon père. À son retour, j'étais encore euphorique. Il jeta un regard incrédule sur mon petit domaine avant de me dévisager en silence d'un air que je n'oublierai jamais. C'était une expression de mépris, de déception amère, indicible, de désespoir génétique total. « Dis-moi, tu as perdu la tête ?» grinça-t-il finalement entre ses dents. « Par ordre de taille ? Tu crois que les livres sont des soldats ou quoi ? Une garde d'honneur ? Le défilé de l'orchestre des pompiers ?» Il se tut. Un long silence terrible à la Grégor Samsa, à croire que je me métamorphosais en cafard devant ses yeux. De mon côté, je gardais un silence coupable, comme si on venait de découvrir que j'avais toujours été un misérable insecte et que tout était irrémédiablement perdu. À la fin, mon père m'exposa les réalités de la vie pendant 20 minutes. Il ne me cacha rien. Il me fit pénétrer dans le sein des saints du monde des bibliothécaires. Il me dévoila la voie royale ainsi que les chemins de traverse, les paysages vertigineux des variantes, des nuances, des fantaisies, des avenues retirées, des tonalités audacieuses et même des excentricités. on pouvait classer les livres d'après les titres, l'ordre alphabétique d'auteur, les collections et les éditions, la chronologie, les langues, les sujets, la thématique, le genre et le domaine, voire le lieu de la publication, et ainsi de suite.
C'est vraiment un récit inaugural pour notre émission, c'est parfait, c'est vraiment un concentré de transmission autour des livres que vous avez choisis.
Oui.
Amos Oz, c'est un grand auteur israélien qui est mort en 2018.
Oui.
Que vous avez rencontré aussi, du coup ? La logique va aussi jusqu'à Amos Oz ?
Je l'ai rencontré à une signature dans une librairie.
Ah, vous avez voilà. été pour le rencontrer. Parce que grand amour pour son travail.
Grand amour pour son travail, puis tous ces auteurs, toute cette génération qui ont retraversé la question de leur enfance, leur enfance dans une époque particulière, dans un pays. Ça a toujours été aussi quelque chose de très profond dans ma vie, dans mon travail, de savoir l'enfance des uns et des autres, le pays, la ville dans laquelle les uns et les autres sont nés, pour inscrire quelque chose d'une identité, mais aussi d'une traversée, de paysage.
Mais comme quelque chose qui vous renseigne sur le monde, les enfances ?
Oui, quelque chose qui se renseigne, qui me renseigne sur le monde. Et j'ai gardé le goût de ce travail que j'étais instituteur au départ de ma carrière, avant d'être danseur et chorégraphe. Donc l'enfance est vraiment un moteur dans ma vie, dans mon travail. Je suis entouré d'enfants qui sont grands maintenant, qui sont presque des adultes. Mais il y a aussi encore des enfants proches, même les enfants de mes voisins qui viennent régulièrement justement lire des albums, dessiner. Pendant le confinement, ils sont venus lire, écrire à la maison. Et quand je travaille, quand je fais danser les enfants, il y a quelque chose de d'un récit qui commence à s'ouvrir, à se déployer. Et qui me donne beaucoup de force et d'énergie.
Le livre d'Amos Oz, Une histoire d'amour et de ténèbres, vous le découvrez au moment de sa sortie ?
Oui, 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 tout à fait.
Bon gros pavé, vous parvenez à le traverser.
Oui, les pavés.
Ça me fait pas peur.
Ça me fait pas peur. Non, vraiment. Ouais. Je peux lire un livre de poésie qui fait 10 pages, comme un grand livre.
Il y a aussi quelque chose dans cette scène de transmission entre un fils et son père, et peut-être tout particulièrement quand même Jérusalem, cette période-là, c'est l'idée que les livres ne sont pas des soldats. Et qu'il y a un rapport presque qui s'oppose entre la littérature et la guerre, le fait d'être rangé tout droit, de se tenir droit, et quelque chose peut-être de plus vivant dans la bibliothèque du père. Ouais, comme s'il y avait quelque chose dans le livre qui... Peut-être que j'extrapole, mais qui était quasi anti-militariste, quoi, dans la manière dont c'était présenté là.
Oui, complètement. Et justement, tous ces auteurs qui sont nés, qui ont écrit à partir de l'histoire de leur pays, de l'histoire des guerres, l'histoire d'occupation, l'histoire de destituer quelque chose de l'identité, de l'origine. Raconte aussi quelque chose de la lutte, la lutte contre les pouvoirs, de les faire, de déplier de nouvelles frontières, d'ouvrir l'histoire à la grande histoire.
On va vers votre deuxième choix. Est-ce que vous avez un ordre en tête ?
Oui, j'ai pensé de l'enfance à ce qu'on appelle au Canada les aînés. Donc, qui sont les personnes âgées, puisque je travaille à ces deux endroits, puisque j'ai autant de plaisir à chorégraphier les corps enfants comme les corps plus âgés. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer cette autrice, poétesse merveilleuse qui s'appelle Joséphine Bacon, qui est une poétesse inoue. Et c'est un court poème qui s'appelle Une fois de plus.
Donc, vous dites que c'est une poétesse inoue, mais du coup, c'est le Québec ?
C'est le Québec, et le Québec est divisé comme ça en différentes provinces. Et donc ces provinces appartenaient forcément à différentes tribus, dont la tribu des Innu. Et il y a la tribu des Mi'kmaq, il y a plusieurs tribus. Et Joséphine Bacon est une poétesse qui, vers la quarantaine, a commencé à vouloir réapprendre sa langue qu'elle avait perdue, puisqu'elle a été, elle, fait partie de cette génération des enfants kidnappés et mis en orphelinat. Donc c'était pour elle toute une reconquête comme ça de sa culture, de sa langue et aussi de tous les récits toutes les légendes autour de la culture amérindienne.
Comment vous la rencontrez ?
Je la rencontre, je suis invité à un festival de danse à Montréal et le directeur du festival, Sylvain Blot, met comme ça en relation différents artistes et je me retrouve sur la question du territoire et je me retrouve dans un studio avec cette femme qui doit dire des textes pendant que j'improvise en dansant. Puis on s'est plus quitté puisque ça fait maintenant 5-6 ans que je la connais. Et régulièrement, là, j'y étais en décembre et là, j'y retourne en avril continuer une aventure poétique et chorégraphique avec Joséphine.
Alors, on vous écoute, c'est pour un poème, c'est ça ?
Oui, c'est un poème. Donc, il y a un petit prologue que j'avais envie de lire par rapport à l'aîné et puis j'enchaîne. Parvenir à l'âge adulte n'est déjà pas facile. Parvenir à être aîné, je le sais encore moins. Certains diraient que je suis une aînée, d'autres non. Surtout quand je pense aux enseignements des anciens ou à cet homme de Nutash Kouan que j'enregistrais pour connaître mon histoire. Un jour, je lui ai demandé son âge, il avait alors 65 ans, et il se considérait comme un Usinitsu, qui veut dire « jeune homme » en Innu Aimun. Il avait la jeunesse des arbres, et j'avais vu passer plusieurs années. Je ne sais pas encore si j'avais atteint l'âge des aînés. J'ai appris d'eux, savoir transmettre, donner à ceux qui veulent entendre, qui à leur tour continueront encore une fois de plus pour la mémoire. Le sommeil me rejoint, dehors c'est l'été, pour pas longtemps. La pluie se fait rare, les yeux fermés, j'écoute les pas, autour, voix faible. Mon corps en foetus retourne à ce lieu de paix. Dans les rues, les veilleuses ne s'éteignent pas, je fantasme un repas digne. La nuit où les étoiles espèrent comme moi revoir le matin. Le dos courbé, mes genoux de métal, ma canne fidèle à mes pas lents, améliore ma marche. Retrouver ces arbres tordus par le vent de la mer, ils ont tissé mes racines aux couleurs d'enfants disparus. Je n'ai pas revêtu mon habit de guerrier, je t'ai abandonné avec ton chagrin, je n'ai pas su te consoler. Aujourd'hui, j'ai mal, plus qu'hier. Je nous observe. Le pardon est si dur à donner l'absolution. Je n'ai pas besoin d'être riche. Pour être vivante, j'ai besoin de l'air du vent, de l'oxygène. Au rire de mes dents, je poursuis le temps qui me manque. Je ne peux pas toujours retenir les mots qui parlent de blessures, d'amour, d'amitié, sans le poème. Parle-moi sans mots, j'aurai un silence à t'offrir.
Joséphine Bacon, c'est une poétesse qui a pas encore 80 ans, mais dont on peut dire qu'elle va vers un âge aîné.
Oui.
Vous avez choisi un poème qui se termine par l'idée de se parler sans mots, d'avoir aussi un silence à offrir, et vous évoquez une scène où vous improvisez en dansant Thierry Tuenyang et elle lit ses poèmes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre comme ça, comme un équivalent, l'idée que quand vous dansez, vous avez un silence à offrir, vous pouvez parler sans mots, ou c'est une façon trop, un peu trop simple de parler de la danse ?
Non, je pense que je danse parce que d'abord, je ne trouvais pas les mots. Et si tout à coup, la littérature, les livres sont devenus des alliés, des complices, des amis. Puis est arrivé le théâtre. La danse a été vraiment l'endroit où j'ai cherché à prendre la parole. Et que quand je danse, quand je prépare un spectacle, je travaille beaucoup en silence. Donc la musique vient très tard. Souvent, la musique est aussi de la musique live, donc j'aime beaucoup la présence des musiciens en direct. Donc, mais je peux danser des heures en silence. Donc il y a, comme dans la lecture, dans la ponctuation, dans les textes, dans les pages qu'on tourne, il y a toute la question du silence. Et le silence est devenu aussi une matière sur laquelle je m'appuie pour chorégraphier, pour transmettre le mouvement dansé.
Et puis c'est aussi quelque chose qui est commun avec la lecture, c'est que, en effet, la plupart des gens, enfin en tout cas moi par exemple, je lis dans le silence. Je sais qu'il y a des gens qui lisent en musique, mais moi je lis dans le silence absolu et je sais que ça fait partie du plaisir que j'ai à lire.
Complètement. Moi, c'est pareil, je lis en silence, je peux pas lire avec de la musique. Oui, comme quand je danse, je crois, j'entre dans le silence, mmh. où le silence accueille tout à coup un geste. Mmh. Et c'est, pour moi, c'est, le silence, c'est une respiration. C'est vraiment un appel d'air, c'est un moment où tout l'imaginaire s'ouvre, où le réel, tout à coup, se ralentit et le geste surgit.
Le troisième choix nous emmène vers un texte de Pierre Guyotat. C'est un texte qui s'appelle « Coma », qui sort en 2007. Pierre Guyotat, il meurt en 2020. C'est un auteur dont vous avez aussi rencontré l'œuvre pour la travailler, Thierry oui. Thionyang. Est-ce que vous voulez, avant de nous lire un morceau de « Coma », nous dire quelle a été votre rencontre avec Guyotat et qu'est-ce que vous avez fabriqué avec lui?
Très très belle rencontre. J'ai rencontré Pierre Guyotat par l'intermédiaire de Patrice Chéreau. Mm-hmm. Patrice Chéreau avait envie de se remettre, comme il avait fait avec Dostoïevski, à lire un texte au plateau et m'a demandé de le diriger. Et on a cherché, comme on l'avait fait un peu avec Duras et Dominique Blanc sur la douleur, on a cherché comme ça des textes. Et il a évoqué Pierre Guyotat pour la résistance, pour l'homme obscur et en même temps l'inventeur d'une langue. Et c'était une période où Patrice était fatigué, commençait à être malade. Et on est tombé sur ce texte Coma, qui est aussi le récit autour d'une maladie, d'une convalescence. On a appelé Pierre. Pierre était très content. Il nous a aidé à choisir les passages du texte pour en faire un récit à mettre qui se tenait pour mettre au plateau. Et j'ai eu la chance d'être le regard sur la mise en espace, de diriger, de guider Patrice Chéreau à ce moment-là sur cette traversée avec Pierre à mes côtés, Pierre Guyotat, qui est un grand, grand connaisseur de danse, qui aime beaucoup, beaucoup la danse, qui aimait beaucoup, beaucoup la danse, et qui avait déjà eu l'occasion de travailler avec un chorégraphe qui s'appelle Bernardo Montet. Voilà, et on était là, comme ça, tous les trois. Moi, j'étais très, très ému, très fier d'avoir à ma gauche Pierre et à ma droite Patrice, et de traverser ce texte. Et ce texte, j'ai eu, il y a un an, pour un hommage à Pierre, j'ai pu refaire cette lecture avec la même mise en espace. J'ai choisi Éric Caravaca. Donc, c'était à la Maison de la Poésie, Éric Caravaca, qui avait été un acteur de Patrice. Je trouvais que c'était très beau d'amener Éric à cet endroit-là.
Mmh. On va en parler tout à l'heure parce que vous avez choisi de lire un texte de Duras. Alors, pas la douleur... qui était lu et porté par Dominique Blanc. Puis vous avez aussi choisi de lire un texte de Robin Cosley-Lewis, dont vous avez accompagné la lecture par Alice Diop. Et on aperçoit votre nom quand ce n'est pas une pièce de Thierry Thionyang, chorégraphiée par Thierry Thionyang, on aperçoit votre nom régulièrement avec regard chorégraphique ou accompagnement chorégraphique ou accompagnement du mouvement. Ce qui, pour des personnes qui sont peut-être complètement étrangers ou étrangères au spectacle vivant, peut paraître parfaitement abstrait. J'imagine que c'est à chaque fois différent. Mais ça veut dire quoi, par exemple, accompagner Patrice Chéreau, le mouvement de Patrice Chéreau autour de Guyotat et Coma, concrètement?
Concrètement, c'était simplement que, par exemple, il avait le texte et je lui demandais de lire le texte en silence et de bouger dans l'espace. Je notais comme ça
De lire dans sa tête.
De lire dans sa tête. De lire dans sa tête et de bouger dans l'espace. Je l'avais un peu travaillé de la même manière avec Dominique Blanc sur la question de l'attente. Qu'est-ce que c'est une femme qui attend comme dans la douleur? Et de chercher dans le corps, des états de corps, des états de présence, de chercher comment marcher, comment s'arrêter, se lever d'une chaise, poser les feuilles de papier au sol, prendre le deuxième livret de papier. Voilà, de trouver les appuis, pied droit, pied gauche, tourner la tête, lever les épaules. Enfin, voilà, je notais des choses qui me paraissaient comme un alphabet, un vocabulaire chorégraphique que je pouvais après déployer et offrir à l'interprète, que ce soit Alice Diop qui n'avait jamais été au plateau, comme Patrice qui n'avait pas forcément besoin de moi pour bouger ou incarner, mais c'était d'amener une autre manière d'être, une autre manière de présence. Et c'est vrai que je suis toujours très troublé, très ému quand justement dans ce simple, entre guillemets, regard chorégraphique, que le spectateur, les spectateurs, ils connaissent mon travail, tout de suite disent « mais oui, ça c'est toi ». Il y a de toi là-dedans, quoi.
Et comment, alors, c'est quoi? Parce que quand même, pour avoir vu ces propositions-là, donc, il y a personne qui fait des pirouettes, quoi, pour que ce soit très clair. Il y a personne qui rentre en faisant des roues, il y a personne qui fait une chorégraphie. Parce que, si on est loin, on va se dire, c'est quelqu'un qui rentre, qui s'assoit, qui lit, qui se lève, qui se rassoit. Et en fait, c'est pas si facile que ça, Thierry Tugnon.
Non, c'est pas si facile que ça. C'est, je crois qu'il y a quelque chose de la présence à soi, de chercher dans son propre corps, mais aussi dans le mécanisme du corps, le squelette, les muscles, le poids du corps, de trouver un calme. On parle souvent dans mon travail de un rapport au temps qui est pas ralenti, mais qui est serein, qui est calme. On verra aussi dans les prochains textes, mais c'est sur quelque chose de la douceur. Et puis, on posait la question, comment cette douceur, ce présent de la présence, devient un geste chorégraphique.
On lit Coma, alors. On lisait Coma, de Pierre Guyotat.
Chouette, poisson, cochon noir, corail dans l'eau qui bat, en bas. Voir le monde comme le voit en même temps la taupe, qui voit si peu, l'araignée d'eau, l'aigle. Ressentir le monde comme le ressentent l'acarien du tapis, le crabe ou la baleine. Comme la mouette en plein froid, posée sur la couronne de la statue du roi, qui s'y réchauffe en déféquant. L'œil est l'organe le moins chargé d'eau. Il faut, pour bien comprendre le monde, l'aimer, le voir, le ressentir ainsi, de plusieurs yeux superposés, de plusieurs sens animaux mêlés. L'œil humain serait alors par surcroît. Penser la pensée de l'animal. L'homme n'est pas plus le roi de l'univers que le lion n'est le roi des animaux. Il doit penser aussi qu'il continue son évolution comme l'être animal est en devenir. Il faut se voir comme nous voient les animaux.
En vous écoutant, je me demandais ce que ça vous faisait à vous de lire à voix haute Thierry Tugnon.
Ouais, c'est, j'ai pas l'habitude. Voilà, je suis. Je pense du coup à Alvaro. Je pense en lisant. Je pense à Patrice Chéreau. Je pense à Alice Diop. Je pense à tous les gens avec qui j'ai eu la chance de travailler sur des lectures et d'entendre leur voix comme des instruments de musique, leur voix animaux, aussi d'animal. C'est pour ça aussi que j'aimais beaucoup cette idée qu'on regarde, mais aussi on a quelque chose dans la voix d'animal, d'organique. Mais j'ai l'impression que comme avec Joséphine ou maintenant avec Marguerite Duras, c'est trouver le mouvement de la parole, le mouvement de l'écriture, comme quand je cherche le mouvement des corps. Et donc il y a quelque chose aussi de pas presque en apnée dans cet exercice pour moi de lire, c'est-à-dire de trouver, non pas simplement de respecter la ponctuation qu'il y a sur la page, mais de respecter aussi ce qui m'anime, ce qui me fait buter, ce qui me fait ouvrir, ce qui me fait déplier quelque chose de ce que j'entends dans ce que je dis.
Ouais. Votre quatrième choix, Thierry Tugnon, se tourne vers donc Marguerite Duras, dont on a déjà parlé. Mais vous avez choisi un texte en particulier dans le gros quarto Duras chez Gallimard. Oui. Je vous laisse l'introduire avant de le lire.
Oui, j'ai choisi les mains négatives. J'ai choisi ce texte parce que je me souviens d'avoir vu le court-métrage, de voir le film, qui est ce film est très étrange d'une traversée de Paris, et puis ce texte. Et puis j'aime beaucoup chez Marguerite Duras cette curiosité que je peux avoir aussi, celle d'aller du côté du cinéma, d'aller du côté du théâtre, d'aller du côté de la poésie, du réel. Et ce texte était un peu aussi un clin d'œil à Joséphine, je crois. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose comme ça de la nature, de convoquer aussi ce, comme un cri, quelque chose de l'autre.
On peut voir ce film de Marguerite Duras. Vous pouvez le voir sur Internet, auditeurs et auditrices qui nous écoutaient. C'est donc un film de 1978 et on vous écoute, Thierry Tuignoc.
On appelle main négative les peintures de mains trouvées dans les grottes magdaléniennes de l'Europe sud-atlantique. Le contour de ces mains, posées grandes ouvertes sur la pierre, était enduit de couleurs, le plus souvent de bleu, de noir, parfois de rouge. Aucune explication n'a été trouvée à cette pratique. Devant l'océan, sous la falaise, sur la paroi de granit, ces mains, ouvertes, bleues et noires, du bleu de l'eau, du noir de la nuit. L'homme est venu seul dans la grotte, face à l'océan. Toutes les mains ont la même taille. Il était seul. L'homme seul, dans la grotte, a regardé dans le bruit de la mer. L'immensité des choses. Et il a crié. Toi qui es nommé, toi qui es doué d'identité, je t'aime. Ses mains, du bleu de l'eau, du noir du ciel, plates, posées, écartelées sur le granit gris, pour que quelqu'un les ait vus. Je suis celui qui appelle, je suis celui qui appelait, qui criait il y a 30 000 ans. Je t'aime. Je crie que je veux t'aimer, je t'aime. J'aimerais quiconque entendra que je crie. Sur la terre vide resteront ses mains sur la paroi de granit face à un fracas de l'océan. Insoutenable, personne n'entendra plus, ne verra. 30 000 ans. Ces mains-là, noires. La réfraction de la lumière sur la mer fait frémir la paroi de la pierre. Je suis quelqu'un, je suis celui qui appelait, qui criait dans cette lumière blanche, le désir. Le mot n'est pas encore inventé.
J'allais dire plein de choses, mais on n'a pas le temps. J'allais dire qu'il y a beaucoup de choses de Duras qui sont prises dans ce très court texte de 78, beaucoup. Je trouve.
Moi, c'est
qui sont comme resserrées, quoi. C'est presque un coquillage.
Coquillage Duras. Comme un extrait, ouais. Comme un parfum, ouais. Une essence. C'est, moi aussi, il me parle beaucoup. Ouais. Je ne sais pas pourquoi.
Ça pourrait plein se déplier vers plein d'autres textes à elle.
Exactement. Mm-hmm. Et plein de danse à venir aussi.
Ah, trop bien. C'est un programme, alors.
C'est un rêve.
Et on se quitte, Thierry Tuignoc, avec une rencontre récente.
Complètement.
Je vous laisse nous dire quoi ?
Oui, récente, en novembre, j'ai eu la chance de travailler avec la cinéaste Alice Diop, qui avait découvert ce texte, qui en a fait d'ailleurs d'abord aussi un court-métrage, Fragment de Vénus. Et pour le Festival d'automne, à la MC 93 de Bobigny, elle a souhaité lire... de faire une mise en espace, une lecture performance avec ce texte, l'Odyssée de la Vénus Noire, donc qui a été édité à ce moment-là, donc traduit chez Gallimard. Et j'ai eu la chance d'accompagner Alice donc dans cette lecture, dans ces mouvements même minimal, dans le fait juste de tourner la tête, d'incliner le menton, de chercher dans des tout petits gestes, comme une chorégraphie minimale, comment accompagner ce très très beau texte qui m'a beaucoup bouleversé, et de rencontrer, de passer une soirée, une journée avec Robin. J'ai un énorme souvenir très émouvant du book club qu'elle a fait avec vous, et c'était vraiment un très beau moment, quoi.
C'est une poétesse américaine qui est née en 1964. Elle a obtenu pour ce recueil de poèmes qui s'appelle donc en anglais Voyage of the Sable Venus, paru en 2015, le National Book Award de poésie. Et c'est une première pour un recueil inaugural depuis 1974, et la première fois qu'un premier livre d'auteur afro-américain gagnait ce prix. C'est un texte, voilà. On peut en effet vous renvoyer, et c'est très sympa de votre part, à cet entretien, mais ça permet en effet de l'entendre parler de ce texte-là et de sa conversation avec Alice Diop, conversation intellectuelle et artistique. On vous écoute pour cette dernière lecture. Traduction Céline Leroy.
Pour certains poètes, comme moi, l'écriture est un acte archéologique, une pratique archéologique sans paysage ou temps.
nous nous tenons là, debout, flottant en l'air avec vous. Nous vous demandons d'imaginer avec nous que ce que nous voyons est vrai. Nous voulons que vous acceptiez ce mensonge qu'il n'y a qu'un seul sol, quand nous savons tous, chacun et chacune, qu'il n'y a jamais eu quoi que ce soit comme un sol. De toute façon, nous faisons semblant ensemble. Un écrivain ne veut pas vous faire la leçon sur le passé. Nous voulons plutôt vous y emmener. Ce qui veut dire que nous voulons votre compagnie. Les poètes les plus sincères veulent vous tenir par la main, car comme vous, nous aussi nous avons peur de ce que nous allons trouver. Quelque horreur humaine trop abominable pour la supporter tout seul. Et le contraire est vrai aussi. Nous sommes terrifiés de trouver enfin une beauté qui est extraordinairement simple, car au milieu de tous ces enfers, elle existe vraiment. Une amulette de lapis cachée pour chasser la mort. J'écris parce que la vie est solitaire et je veux que tu sois là. J'écris parce que tout ce que je veux, c'est toi, ici, avec moi, descendant dans les innombrables pages de la terre, avec une petite brosse dans ma main, une lanterne dans la tienne. Ce bruit de tes pas sur les marches de terre à mes côtés. Quand même, combien l'art peut être comme l'amour. L'art se tient là, devant vous, plein de caresses, mais à distance. Comme lorsque cette main, que j'observe depuis des années, étudiant chacune de ses lignes, est enfin dans la même chambre, allant à la rencontre de la mienne. Je ne pense pas à la personne à qui appartient cette main. Tout ce que je peux ressentir, c'est la beauté.
Merci beaucoup Thierry Thionyang d'avoir ouvert votre bibliothèque pour le Book Club.
Merci Marie. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Au revoir.
Au revoir, merci à vous. À bientôt.
Pour retrouver les textes lus par Thierry Thionyang, rendez-vous sur la page du Book Club franceculture.fr. En suivant cette page, vous trouverez aussi tous nos portraits de bibliothèque. À la prise de son aujourd'hui chez Thierry Thionyang, c'était Benjamin Troncin. À la réalisation, Françoise Le Floch. Et au mixage de cet épisode, Timothée Hubert. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club, et tout particulièrement aujourd'hui à Garance Roubieux.